Les conférences du Collège de France.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence. Ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir le professeur Slim Laghmani. Je vais l'introduire brièvement et puis ensuite lui passer la parole pour une heure. Nous aurons 15 minutes de discussion ensuite. Vous êtes bien sûr libre de partir. La discussion ne sera pas enregistrée, mais j'imagine que vous serez heureux de poser des questions en public. Alors, Slim Laghmani est professeur émérite de l'Université de droit, d'économie et de gestion de Tunis, ou de Carthage plus exactement. Il a dirigé le laboratoire de recherche droit de l'Union européenne et relations Maghreb, et a co-dirigé la collection Rencontres internationales de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Alors, en parallèle d'une carrière universitaire très riche, j'aimerais souligner quelques points supplémentaires. Il a présidé l'Association tunisienne de droit constitutionnel, a été membre du comité des experts au sein de la haute instance de réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, et depuis 2023, il est membre associé de l'Institut de droit international. Slim Laghmani est spécialiste, vous le verrez, de droit international public, de droit constitutionnel et de philosophie du droit, avec un accent particulier sur les questions que soulève l'islam en droit international, en droit constitutionnel et en philosophie du droit. En 2022, il a d'ailleurs donné un cours spécial à l'Académie de droit international de La Haye qui est intitulé « L'islam et le droit international ». Alors, c'est dans la lignée de ses recherches et en marge du séminaire « Droit international des régions » que certains d'entre vous suivent peut-être, que Slim Laghmani nous propose ce soir de réfléchir ensemble, d'abord seul et puis ensuite ensemble, à la question suivante. Existe-t-il une exception islamique en matière de droit international ? Alors, un grand merci, cher Slim, d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes très, très heureux de vous accueillir et de vous écouter.
Merci. Moi également, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, un plaisir d'être ici, un plaisir de délivrer cette conférence qui porte, comme Madame la professeure Besson vient de le dire, y a-t-il une exception islamique en matière de droit international ? L'objet de cette conférence n'est pas les rapports des États musulmans au droit international. Les États musulmans sont d'abord des États, et donc des sujets du droit international, et à cet égard, il n'y a aucune exception islamique. Il y a bien une organisation de la coopération islamique, mais c'est une organisation intergouvernementale, comme tout autre. Le paragraphe premier de l'article 2 de sa charte constitutive dispose d'ailleurs, je le cite, « Tous les États membres s'engagent à respecter les buts et principes de la Charte des Nations Unies. » Le titre annonce un rapport entre islam et droit international et interroge sur l'existence ou non d'un rapport exceptionnel entre les deux. En vérité, aucun des deux termes de ce rapport n'est opportun. Le terme islam est trop vague et l'expression droit international est, nous le verrons, inadéquate. Le mot « islam » occulte plus qu'il ne dévoile. Par ce mot, on peut désigner des choses différentes. Une foi religieuse, une culture, une civilisation ou une idéologie. Et ces choses couvrent elles-mêmes des réalités différentes. Si l'on saisit l'islam en tant que religion, donc en tant que foi en une surnature, qui se particularise par un ensemble de dogmes et qui s'extériorise par des rites, des règles et des institutions. On devra alors distinguer l'islam sunnite de l'islam chiite, de l'islam khalijite, de l'islam soufi. Si l'on focalise sur l'intelligence de cette foi, sur ce que, dans la culture chrétienne, on nomme théologie, si l'on focalise sur l'intelligence de cette foi, on distinguera alors l'islam littéraliste ou traditionniste, je m'expliquerai tout à l'heure de ce mot, de l'islam rationaliste ou mu'tazilite de l'islam soufi. Si l'on entend par islam une culture, l'aspect immatériel d'une civilisation et une manière d'être au monde, on distinguera alors l'islam arabe de l'islam noir, l'islam asiatique, de même qu'on opposera l'islam savant à l'islam populaire. Par islam, on peut enfin également désigner des idéologies. L'islam officiel, le mouvement des frères musulmans, l'islam salafi, qu'il soit politique ou jihadiste. Par ce mot, on peut désigner une civilisation. La civilisation arabo-musulmane du 7e au 13e siècle que Dominique et Janine Sourdel ont nommé la civilisation de l'islam classique. C'est dans ce dernier sens que nous l'utiliserons, principalement dans cette conférence. Quand nous ferons usage des autres acceptions, selon les besoins de l'analyse, nous le préciserons. Ce choix s'imposait du fait qu'avant la naissance et l'épanouissement de la civilisation musulmane, la question du rapport de l'islam aux droits des gens ne se posait évidemment pas. Et que depuis l'apparition des États modernes, des États musulmans modernes, soumis au droit international, de la même manière que tous les autres États, la question ne se pose plus. Ceci pour le terme islam. Quant à l'expression droit international, j'en ai dit qu'elle était inadéquate. Le droit international est indissociable de la forme politique étatique qui, elle, est moderne au sens historique du mot. Cela ne signifie pas qu'auparavant, les rapports entre les peuples n'étaient pas régis par des règles. Ils l'étaient, mais ces règles n'étaient pas internationales. Les Grecs les subsumaient sous l'appellation « droit naturel ». Les Romains ont inventé l'expression « jus gentium ». La tradition chrétienne médiévale utilisait les deux expressions, droit naturel, droit des gens. Et les musulmans ont nommé l'ensemble de ces règles siyar. Ces précisions nous mènent donc à reformuler la question qui intitule cette conférence. Est-ce que le droit des gens, développé par la civilisation islamique, constitue une exception? Est-ce qu'il déroge à la norme? Encore faut-il déterminer cette loi commune, cette règle générale à laquelle il dérogerait. Cela ne peut pas être le droit international puisqu'il n'existait pas. Le De Iuri Belli Ac Pacis de Grotius a été publié en 1625. Quant à l'expression même, international law, droit international, elle a pour origine le philosophe britannique Jeremy Bentham, et apparaît pour la première fois en 1780. Emmanuel Kant, dans sa doctrine du droit, lui va nommer cette branche du droit Staatenrecht, droit des États, en 1797. Donc ce n'est pas à cela que l'islam dérogerait. Cette norme à laquelle il dérogerait n'existait pas au moment où il a développé son corpus juridique relatif aux droits des peuples. Cela ne peut être, s'il y a exception, s'il y a dérogation, cela ne peut être que par rapport aux droits des gens antiques et médiévaux. Et notre propos est de montrer que le corpus juris, nommé siyar par ses auteurs, qui sont les fuqahais, c'est un terme. Fuqaha, c'est le pluriel de faqih, qu'on traduit approximativement, nous le verrons, par jurisconsulte et par droit, mais de manière très maladroite, on le verra tout à l'heure. Donc, ce corpus juris n'est en rien exceptionnel et il s'apparente aussi bien dans sa structure que dans son contenu aux autres manifestations du droit des gens antiques et médiévales. La clé de son explication est d'ailleurs la même que celle des autres manifestations du droit des gens antiques et médiévales. Et cette clé, c'est la nature du pouvoir dans le contexte duquel ce corpus juris s'est développé, et ce pouvoir, c'était l'Empire. Nous verrons enfin, en troisième lieu, que le fait que ce corpus ait survécu à l'Empire s'explique par l'orthodoxie théologico-juridique qu'il a sacralisée et qu'à ce point de vue aussi, il n'y a pas d'exception. Trois moments donc. Voyons d'abord les siyar et le droit des gens antique et médiéval. Nous verrons ensuite les siyar et l'Empire et nous terminerons sur l'orthodoxie théologico-juridique. Les siyar se présentent comme une branche du fiqh. C'est le substantif. Fiqh qu'on traduit également, mais de manière tout à fait erronée, par droit musulman. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Le mot siyar, c'est un pluriel, le pluriel de sira. Et sira veut dire comportement. Les siyar ont été définis par les jurisconsulte musulman comme suit. Je cite une définition que j'ai traduite moi-même du faqih Mohamed el-Sarahsi. Les règles, les siyar, ce sont les règles de comportement des musulmans dans leur relation avec les non-musulmans, qu'ils soient de ceux avec lesquels nous sommes en guerre ou de ceux avec qui nous sommes liés par des pactes, et parmi ces derniers, les protégés, les tributaires, ou avec les apostats, ou avec les schismatiques. C'est-à-dire que ça couvre une altérité multiforme. Il peut s'agir d'autres peuples, il peut s'agir de musulmans qui ont renié l'islam, il peut s'agir également de musulmans qui ont développé des thèses considérées comme impies. Les plus anciens ouvrages de fiqh comprennent immanquablement un chapitre consacré aux siyar. Peu à peu, l'étude des siyar s'érigea en science autonome. Des ouvrages y furent spécialement consacrés, bien avant le De Jure Belli Ac Pacis de Hugo Grotius. Les musulmans ont donc pensé leur rapport avec les autres peuples en termes de droit et ont considéré ce droit comme autonome, distinct du droit encadrant les rapports entre les musulmans. Les siyar ne se définissent pas comme un droit posé par les musulmans, mais comme des commandements divins destinés à régler la conduite de la umma musulmane, la communauté musulmane, avec les autres peuples. Par ailleurs, les siyar étaient aussi bien un droit régulant les rapports entre les peuples que les rapports des individus relevant ou appartenant à des peuples différents. Sa matière relève de ce que nous nommerions aujourd'hui le droit international, mais aussi droit interne, droit international privé. En cela aussi, les siyar se distinguent du droit international public et s'apparentent dans leur structure et dans leur contenu aux autres manifestations du droit des gens antiques et médiévales. Nous envisagerons donc successivement les règles régissant les rapports entre les peuples, d'une part, et les règles régissant des rapports où un individu est parti, d'autre part. Règles régissant les rapports de la umma musulmane aux autres peuples. La umma est une unité interpersonnelle dans le ciment et la foi en une même religion. Les rapports de la Oumma aux autres peuples peuvent être de deux sortes, des rapports de guerre ou des relations de paix. Et ces deux types de rapports et leurs droits ont été envisagés par les Siyar. Voyons d'abord le droit de la guerre. Donc, vous savez, le droit de la guerre se scinde en deux parties. Le droit à la guerre, le jus ad bellum, et le droit dans la guerre, le jus in bello, droit humanitaire étant la partie principale de ce jus in bello. Voyons d'abord le jus ad bellum des Siyar. L'analyse du droit à la guerre islamique est délicate. Nous pensons qu'il y a plusieurs lectures possibles du Coran ou de la Sunna. La Sunna, c'est l'ensemble des traditions du prophète Mohammed. La Sunna. Il y a plusieurs lectures possibles, disais-je, du Coran et de la Sunna. L'interprétation pacifiste est possible. Ces arguments sont même solides. Il suffit à cet égard de rappeler deux versets du Coran. Le premier étant « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. » C'est tiré de la sourate Al-Baqarah, verset 256. Et deuxième verset, je cite « Et dit « La vérité émane de votre Seigneur, quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il m'écroit. » Sourate la caverne, le Kahf, verset 29. Donc il y a bien des versets qui laissent à penser que l'islam peut être interprété comme étant une religion pacifiste. Mais la question n'est pas de savoir quel est le vrai sens du texte révélé, ou quelle est la meilleure interprétation du Coran, indépendamment du fait que nous pensons qu'il n'y a pas de sens vrai d'un texte, que tout texte supporte plusieurs interprétations. Nous interrogeons ici l'histoire, en fait, non le Coran. Nous nous intéressons donc à la lecture dominante en la matière pendant la période de l'islam classique, 7e, 13e siècle. Cette lecture est peut-être aujourd'hui peu opportune. Elle n'en a pas moins été historiquement vraie, efficace, agissante, et nous verrons qu'elle l'est encore. En son sens large, le mot « jihad », ce mot en son sens large signifie « effort ». En son sens restreint, il signifie « guerre sainte ». L'obligation. Le jihad, donc, est une obligation juridique en même temps que religieuse. Fard. Son fondement, le fondement de cette obligation, c'est l'obligation de propager l'islam. Car l'islam est un message adressé à l'humanité entière. L'obligation du jihad est une obligation solidaire quand la guerre est offensive. Un groupe de musulmans peut, en la remplissant, en délier les autres. Elle se met en obligation personnelle, fardaïn, quand les musulmans sont attaqués. Cette distinction est partagée par les quatre écoles de fiqh et son implication est évidente. Faire la guerre aux non-musulmans est une obligation. Que cette guerre soit défensive ou offensive. La différence, c'est la nature de l'obligation personnelle dans le second cas, solidaire dans le premier cas. La guerre offensive devra être précédée d'une sommation préalable. Un jurisconsulte la définit comme suit, l'expose comme suit, c'est El Qudouri. Il écrit « Quand les musulmans pénètrent en territoire ennemi, Dar al-Harb, la maison de la guerre, et assiègent une ville ou une forteresse, ils convieront les occupants à l'islam. Si ceux-ci répondent favorablement à cet appel, ils cesseront de les combattre. Mais s'ils refusent, les musulmans les inviteront à payer l'impôt de la jizya. C'est une capitation. Et s'ils refusent de payer l'impôt de la capitation, alors c'est la guerre. Par ailleurs, les siyar étaient aussi bien un droit régulant les... Excusez-moi. Telle est donc la conception qu'avaient les musulmans du jihad, guerre offensive aussi bien que guerre défensive. Voyons maintenant à titre de comparaison le jus ad bellum dans la tradition juridique grecque, romaine ou chrétienne médiévale. Pour Platon, je le cite, « Lorsque les Grecs combattent les barbares, et les barbares les Grecs, nous disant qu'ils guerroient, qu'ils sont ennemis par nature. » Les Romains considèrent la guerre comme la réalisation d'un droit par la force. Aucune condition n'est posée à la guerre contre les barbares. Rome, je le rappelle, est l'héritière de la civilisation hellénistique. La chrétienté eut d'abord à trancher le problème théologique de la licéité de la guerre. Vous savez que l'enseignement des premiers chrétiens était pacifiste. Mais l'opinion va changer avec la fin de la persécution en 313 après Jésus-Christ et l'élévation du christianisme au rang de religion officielle de l'Empire romain en 380 après Jésus-Christ. De l'interdiction originelle, l'Église passe à la permission conditionnelle pour enfin décider elle-même des guerres. Donc, pas d'exception. Le jus in bello, maintenant. La conduite de la guerre, la distinction entre combattants et non-combattants, le traitement des prisonniers sont réglementés par les siyars. Les sources de cette réglementation sont le Coran, la Sunna, auxquelles il faut ajouter des instructions, les instructions des deux premiers califes, Abu Bakr al-Siddiq et Omar ibn al-Khattab. Al-Qudouri, jurisconsulte que j'ai cité tout à l'heure, résume comme suit les règles du droit humanitaire musulman. Je le cite. « Il convient que les musulmans ne commettent ni traîtrise, ni vol de butin, qu'ils n'infligent pas aux ennemis des traitements atroces. Ils ne doivent tuer ni femmes, ni vieillards décrépits, ni impubères, ni aveugles, ni infirmes. » À moins que l'une de ces personnes ne donne des conseils pour la conduite de la guerre ou que la femme soit une reine. Il convient qu'il ne tue point les fous. Fin de citation. Un droit donc, dans la guerre assez relativement développé par rapport à ce qui se pratiquait durant la même période dans le cadre de la civilisation grecque-romaine ou chrétienne. Les Grecs n'ont enserré ou tenté d'enserrer la conduite de la guerre dans des règles juridiques strictes que quand il s'agissait de guerre entre cité hellène. Platon et Polybe condamnent les cruautés inutiles des belligérants, mais ils limitent cette règle aux guerres dites hellènes. À son apogée, Rome considérait qu'il n'y avait pas en dehors de l'Imperium Romanum, de l'Empire romain, qu'il n'y avait que des brigands. Et on ne respecte pas de code de conduite dans la chasse aux brigands. La guerre intra-chrétienne ne fut durant des siècles, et c'est paradoxal, soumise à aucune limitation. Il a fallu attendre le XIe siècle pour voir instituer les premières règles d'humanisation de la guerre entre chrétiens. Il s'agit notamment des institutions de la paix de Dieu, dont bénéficient certaines catégories de personnes, notamment les prêtres, et la trêve de Dieu durant les jours sacrés. Dans les guerres contre les infidèles, par contre, aucune limitation n'était conçue. Ceci pour le droit de la guerre. Voyons maintenant le droit de la paix. La paix. Le mot a aujourd'hui une signification juridique précise. La paix n'est pas seulement un fait, l'absence de guerre. C'est une situation conforme au droit international. C'est le respect de l'interdiction juridique du recours à la force. La pacification forcée d'un territoire n'est pas paix. Alors que autrefois, c'était la seule forme de paix durable. Mais les Siyar organisent une autre forme de paix, précaire et révocable. C'est celle qui intervient quand deux puissances, également fortes, conviennent pour un temps de ne point se faire la guerre. Il y a donc une paix par la domination, d'une part, et une paix par l'équilibre, d'autre part. Paix par la domination. La Pax Islamica. Toute œuvre des Siyar, sur les Siyar, comprend nécessairement un chapitre sur la condition des Ahl al-Zimma. Ahl al-Zimma, qu'on traduit, que les islamologues traduisent par les tributaires, c'est ceux qui sont obligés de payer un tribut. Les zimmis, les gens qui appartiennent à Al-Zimma, les zimmis, les tributaires, sont les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, auxquels, sur la base d'une tradition du prophète, on a assimilé les zoroastriens, vivant de ces peuples qui vivent de façon permanente en terre d'islam, sur la base d'une convention à durée illimitée, conclue entre la communauté en question et le calife ou son représentant d'autre part. En vertu de cette convention, ces communautés d'Immi, donc peuples non musulmans vivant en terre d'islam, ces d'Immi sont soumis au pouvoir musulman, sauf en matière d'obligations religieuses et de statut personnel. Et là, ils suivent les enseignements de leur propre religion. Ils doivent, en contrepartie de cette liberté, de pratiquer leur religion et de gérer leur statut personnel selon leurs propres règles, ils doivent payer l'impôt que j'ai tout à l'heure nommé, la jizya, qui est une capitation, un impôt par tête. Et si leurs terres sont restées en leur propriété, ils doivent payer un impôt spécial qu'on appelle le kharaj. C'est un statut de peuple dominé. Le fondement de cette institution, Al-Zimma, est un verset coranique. Il s'agit du verset 29 de la sourate Le Repentir, Tauba. Je cite la traduction. Combattez ceux qui ne croient point en Dieu, ni au dernier jugement, qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son prophète ont déclaré illicite, qui ne pratiquent point la religion vraie parmi ceux ayant reçu l'écriture. Les gens du livre. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent la jizya directement et alors qu'ils seront humiliés. Wahum sarirun. Donc c'est une paix par la domination, c'est une pacification. À titre de comparaison, évidemment, on ne peut pas ne pas songer à l'origine du terme pax et pax romana, la paix romaine. Rome est maîtresse du monde. À son apogée, c'est ainsi qu'il concevait le pouvoir romain. L'Empire était constitué de différents peuples. Au centre, le noyau, c'est le peuple romain. Ensuite, on doit considérer les peuples dits amis, les alliés, et enfin les peuples qui se sont rendus à Rome à la suite d'une guerre. Tous ces peuples était plus ou moins assujetti à Rome, le droit applicable à ces peuples était le jus gentium. Ceci pour la paix par la domination. La paix par l'équilibre. L'Antiquité, autant que le Moyen-Âge, ont connu des phases d'équilibre des forces. Cet équilibre, combiné avec les nécessités de la vie, le commerce notamment, a rendu possible un droit basé sur l'égalité et la réciprocité. C'est le cas de Rome, du temps de la monarchie et du début de la République, au moment qui a précédé les guerres puniques, les guerres entre Rome et Carthage, précisément. C'est également le cas du califat à partir du XIe siècle. Il y avait donc un droit de la paix. Ces institutions sont connues. Et d'abord, la règle pacta sunt servanda. le respect de la parole donnée. Ce principe a été affirmé à plusieurs reprises dans le Coran. L'exemple le plus intéressant est celui où l'obligation de respecter sa parole est posée même dans les rapports avec les polythéistes. C'est la sourate At-Tawbah, je l'ai cité tout à l'heure, verset 1 et verset 4. Je cite la traduction, « Désaveu de la part d'Allah et de son messager à l'égard des polythéistes, à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont pas manqué et ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Pour cela, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. » Fin de citation. Mais s'il est vrai que le respect de la parole donnée est sacré, il n'en demeure pas moins que des précautions ont été prises pour en limiter les faits. L'opinion dominante est que la suspension de la guerre ne peut avoir effet au-delà de 10 ans. La trêve d'El-Hudaybiyah, c'est une trêve conclue entre le prophète Mohammed et Quraysh, l'ensemble de tribus qui dominaient la Mecque, n'est-ce pas ? Il y a eu une trêve entre les deux, et dans cette trêve, le délai fixé était de 10 ans. Et donc on a considéré à partir de ce précédent qu'on ne peut pas convenir de trêve qui aille au-delà de de 10 ans. Il est d'ailleurs significatif que les écoles de fiqh ne se sont pas accordées sur la possibilité, en plus de Dar al-Islam, c'est-à-dire l'espace soumis à l'islam, et Dar al-Harb, c'est-à-dire l'espace de guerre, contrôlé par des non-musulmans, ils ne se sont pas accordés sur un troisième espace qui serait Dar al-Sulh, c'est-à-dire l'espace où il y a des trêves, les territoires ou les peuples avec lesquels les musulmans ont conclu des trêves, parce que cette catégorie était très limitée dans le temps et ne pouvait pas constituer une institution. Donc, paix par l'équilibre, oui, mais cette paix ne dure que le temps que dure l'équilibre, et cette paix n'est qu'une trêve en vérité. À titre de comparaison, l'existence d'un droit de la paix fondé sur l'égalité et la réciprocité dépendait, aussi bien en Grèce qu'à Rome, d'un contexte historique et non pas d'un principe juridique. Platon reconnaît à contre-cœur que lorsque la plupart des gens parlent de paix, ce n'est là qu'un mot. En réalité, de par la nature, chaque cité, et il parle des cités grecques, chaque cité ne cesse d'être engagée contre toutes les autres dans une guerre sans déclaration. Ce qui est vrai des rapports entre cités grecques l'est a fortiori en ce qui concerne les rapports des Grecs aux barbares. S'il est vrai par ailleurs que les Romains ont connu des traités de paix équitable, qu'ils appellent les fodus, les sponsio, il n'en demeure pas moins, comme l'écrit Ernest Nist, que pour les Roms, je cite, les traités qu'elle concluait n'étaient pas des traités proprement dits, c'était des trêves. Dans la Respublica Christiane, les traités avaient un caractère religieux. Le pape élevait la prétention d'être leur gardien, de punir leurs violations en vertu de sa juridiction spirituelle. Pacta sunt servanda, donc, de nouveau. Mais s'agissant des accords conclus avec les infidèles, les papes Nicolas IV et Urbain VI ont délié les chrétiens de toute obligation de les respecter. Plus même, ils considéraient ces conventions comme impies. Voyons maintenant les relations dans lesquelles une partie est un individu. De tout temps, l'étranger a été considéré de deux manières, ennemi ou hôte. Voyons d'abord l'étranger ennemi. C'est là le principe. Le non-musulman est un harbi. « Le nom musulman est un harbi, cela signifie que c'est un ennemi. On est en guerre avec lui. Le nom musulman est un harbi et les ennemis ne jouissent ni en leur corps, ni en leur bien du principe d'inviolabilité, asma. Leur sang est sans valeur et leur bien de bonne prise. Je citais là un jurisconsulte musulman. Ibn Qudama en tire la conclusion suivante, ce même jurisconsulte, quiconque trouve et capture en territoire musulman un infidèle qui s'est par exemple égaré, eh bien il en acquiert la propriété. À titre de comparaison, déjà Homère dans l'Iliade déclarait tout étranger est ennemi. Pour obtenir ce qu'il possède, on ne connaît qu'un moyen, le lui prendre. C'est un barbare, un esclave par nature, dira Aristote. En vertu de la loi des 12 tables, 450 avant Jésus-Christ, les Romains considéraient qu'à l'égard de l'étranger, il n'y a pas de droit. Les biens qu'on trouve chez lui n'ont pas de maître. Ils sont accessibles à l'occupation. Prisonniers, ils sont esclaves. Leur tombe n'est pas res religio. Le mariage avec eux est interdit. S'agissant maintenant de la chrétienté, à partir de Saint Ambroise, la chrétienté va s'aligner sur la tradition antique. L'évêque de Milan parle de la société du genre humain et les étrangers n'y entrent pas. Et sont considérés comme étrangers tous ceux qui ne sont pas chrétiens ou qui ne vivent pas sous la domination de l'Empire romain, entre-temps christianisé. Les étrangers sont des ennemis qu'on est en droit de tuer. Voilà le principe. Et il n'est pas propre à ce qu'on nomme le droit musulman. Maintenant, l'étranger hôte, c'est l'exception. En fait, la situation de l'étranger a évolué durant l'Antiquité en fonction de l'évolution du pouvoir politique. Une fois l'Empire bien assis, définitivement constitué, voire florissant, eh bien, l'étranger ennemi cède à cette époque alors de plus en plus aux étrangers marchands. Les Siyar prévoient l'institution d'El-Emen. El-Emen, c'est un mot qui signifie la paix, la sûreté. Et ce statut est basé à la fois sur un verset du Coran, la sourate Tauba, verset 6, et une tradition du prophète. L'Emen, la sûreté, est en fait un contrat, exprès ou tacite, intuitu personné et temporaire, par lequel l'étranger est assuré durant son séjour en terre d'islam, de sa personne et de ses biens. Il concerne les ressortissants de Dar al-Harb, la maison de guerre, et notamment les commerçants d'entre eux, et leur assure une immunité en quelque sorte fonctionnelle, dirions-nous aujourd'hui, et provisoire, un statut d'exception par rapport au statut général de l'étranger ennemi. Est-ce que, de ce point de vue, l'islam était une exception ? Non plus. Le terme « métèque » parvenu jusqu'à nous est significatif de l'existence à Athènes d'un statut juridique spécial accordé à l'étranger. Les métèques sont les étrangers qui se sont établis dans la ville en vertu d'un décret autorisant leur venue. Les métèques sont placés sous la protection d'Athènes. Ils jouissent d'une sécurité pour leur personne et leur propriété. Plus généralement appliqué en Grèce, pas seulement à Athènes, est l'institution de la proxénie. C'est un office dirigé par un proxénos, et un mot qui dérive de ses racines grecques qui veut dire tout à fait autre chose. Proxénos, qui a des privilèges divers, qui doit défendre les intérêts des étrangers, tout en s'occupant évidemment d'autres affaires diplomatiques. Rome a connu une institution comparable, c'est l'hospitum, l'hospitalité privée. qui permet à l'étranger hôte d'exercer les droits de commerce, de mariage, d'ester en justice devant des juges spéciaux, les recuperatores, dont l'office est de trancher les différends où l'une des parties est un hôte. Que conclure de ce qui précède ? Si notre référent est le droit international, on ne peut qu'être dérouté par la structure et le contenu normatif des CIAR et du droit déjà antique et médiéval en général. Ce droit apparaît comme un curieux mélange de droit interne et international, de droit public, de droit privé, de relations extérieures, de rapports internes. À envisager le droit déjà ancien que du point de vue des catégories de la science du droit contemporaine, on s'interdit d'en découvrir la cohérence intrinsèque. Cohérence existe pourtant. Les CIAR, et plus généralement le droit déjà antique et médiéval, ne prennent sens que s'ils sont liés à la forme politique dans le contexte de laquelle ils sont apparus, l'Empire. C'est ce qu'il nous faut à présent exposer. Les CIAR et l'Empire. Par-delà les différences culturelles, religieuses, spatiales et temporelles, nous avons constaté une remarquable identité de la structure et de la matière et des matières des différentes manifestations du droit des gens durant l'Antiquité et le Moyen-Âge. C'est ce qu'il nous faut à présent comprendre et expliquer. Comprendre et expliquer ont la même signification quand il s'agit de choses naturelles. Mais ils acquièrent des sens différents quand il s'agit de choses humaines. La compréhension d'un phénomène humain, social ou humain, suppose qu'on en saisisse le sens. Elle suppose un point de vue interne, herméneutique. Alors que l'explication, elle, doit se faire à partir d'un réel historique, par l'intégration du phénomène à expliquer dans un schéma plus compréhensif, elle suppose donc un point de vue externe, causal. Nous verrons que c'est dans le principe de personnalité du droit que le droit des gens antiques et médiéval trouve sa cohérence, et c'est dans l'Empire qu'il trouve son explication. Le principe de cohérence des CIAR en particulier et du droit des gens antiques et médiéval, plus généralement, est le principe de personnalité du droit. Le droit était d'application personnelle, non pas territoriale, comme c'est le cas de nos jours. Ce qui déclenche son application, c'est la personne, non le lieu. Le droit naturel des Grecs, le jus gentium des Romains, le droit naturel et des gens, des chrétiens, les CIAR, trouve donc application dès que les peuples différents ou leurs ressortissants entrent en contact et polissent ces rapports, même si cela a lieu à l'intérieur de l'ère de déploiement d'une puissance concernée. En sens inverse, le jus civile, le droit des citoyens à Rome, et le fiqh s'appliquent respectivement au rapport entre les citoyens romains ou entre les musulmans, où qu'ils se trouvent, même à l'extérieur de l'ère de déploiement de la puissance concernée. Peu importe le lieu, la personne seule est déterminante. En pratique, d'ailleurs, le droit des gens antiques et médiéval a lieu surtout dans l'ère de déploiement de la puissance. Il n'est pas interne pour autant. Car ce qui est interne, ce n'est pas ce qui a lieu dans les limites d'un territoire, mais ce qui a lieu entre soi. Et ce qui est externe, ce n'est pas ce qui se passe au dehors, mais ce qui concerne les autres. On comprend alors que la situation des peuples dominés, des pérégrins, des gens, des moustaminines, qui ont reçu la sûreté du droit des gens, relève du droit des gens au même titre que le droit de la guerre. Parlant du droit romain, Maurice Bourquin écrit dans ce sens, je le cite, « On ne laissait au jus civile, le droit des citoyens, que les questions qui intéressaient uniquement les personnes de même nationalité. Dès l'instant où la question débordait ce cadre étroit, de quelque façon que ce fût, Elle était soustraite au droit civil et relevée du droit des gens. L'on comprend à présent que le droit des gens anciens s'applique aux individus aussi bien qu'au peuple. Au sein d'une ère soumise à la puissance d'un seul pouvoir, aussi bien qu'entre les peuples, on le comprend. Mais comment l'expliquer? L'explication, en fait, c'est l'Empire. Le droit qui a lieu entre les peuples, aujourd'hui comme hier, est déterminé par les rapports réels entre ces peuples, et notamment par les rapports de force qui président à ces relations. Les rapports entre les peuples sont à leur tour déterminés par la nature des acteurs. En fait, c'est la nature des joueurs qui détermine les règles d'un jeu. Cet acteur est aujourd'hui l'État, et son caractère distinctif est la souveraineté. La souveraineté implique la plénitude, l'exclusivité, la suprématie des compétences d'un pouvoir politique dans le cadre et dans les limites d'un espace dénommé territoire. L'État moderne est territorial. Le territoire est l'espace soumis à la souveraineté de cet État. Et cet espace est circonscrit par des limites de iure, des limites de droit. Ces limites sont ce qu'on appelle les frontières. Cette forme politique est moderne au sens historique du terme. La forme politique dominante qui l'a précédée est l'Empire. L'Antiquité et le Moyen-Âge ont connu diverses formes politiques, la tribu, la cité, les principautés, les royaumes. Mais la forme politique qui a déterminé le cours de l'histoire antique et médiévale, c'est l'Empire. Par Empire, nous entendons de manière précise, et à la suite de Madeleine Gravitz et de Jean Lecas, je cite, « un système politique doté d'un centre fort et institutionnalisé prétendant par ce biais à la mobilisation des ressources et des énergies en faveur non pas seulement de la protection d'une culture, au sens strict du terme, mais de la promotion, et c'est important, d'un projet de nature universaliste. L'Empire a l'obligation d'universaliser sa culture. C'est sa raison d'être, c'est sa mission. Et pour s'acquitter de cette mission, il est obligé de dominer le monde. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. L'Empire est d'abord un pouvoir au service d'un projet universaliste. La réalisation de ce projet est la source même de sa légitimité. L'Empire entend universaliser cette culture, et cette universalisation n'est pas vécue comme une volonté hégémonique subjective, mais comme un don à l'univers et comme une obligation morale ou religieuse. Elle procède de la conviction que cette culture est supérieure et que donc toutes les autres sont inférieures. Un incontestable sentiment de supériorité a caractérisé l'imaginaire collectif dans la civilisation gréco-romaine. François Châtelet écrit à juste titre « Les Grecs ont ce sentiment que de par leurs origines, des relations qu'ils ont tissées avec le divin et les exploits de leurs héros, ils réalisent au mieux la vertu. Ce n'est le résultat ni du hasard ni de la force. Il provient d'un don de la nature et des dieux que les fils d'Hélène ont su faire fructifier par leur intelligence. Les Grecs n'avaient-ils pas créé la loi, la cité ? Ces deux motifs de fierté étaient hissés au rang de frontières, séparant l'être civil du barbare. Rome, héritière de la civilisation hellène, perpétuera cette conviction. Et Ernest Nist a rappelé cette maxime cruelle qui résume toute la politique de la ville éternelle, « Vexatio dat intellectum ». La contrainte donne la compréhension. La contrainte donne la compréhension. Les races vaincues étaient traitées comme si elles se trouvaient en état d'infériorité mentale et morale. Ce qu'Athènes et Rome avaient fondé sur une infériorité morale et intellectuelle, chrétiens et musulmans, le fonderont sur un état d'incrédulité, de mécréance, de kufr. La foi en une religion ne permet de percevoir l'autre qu'en tant qu'inférieur. L'autre n'est par définition susceptible d'aucun respect puisqu'il est dans l'erreur, pire, dans le péché. Il est par définition aveugle puisque non éclairé par la foi, grâce ou hymen. Ignorant puisque ne sachant pas l'unique vérité. Cette mission d'universalisation par l'empire de sa culture est un bienfait pour l'humanité. Mais comme l'aveugle ne voit pas, et comme l'ignorant est entêté, alors cette universalisation passera nécessairement par la domination. L'empire est la domination universelle. S'il est une constante, un dénominateur commun des pouvoirs antiques et médiévaux, c'est bien ce que Joël Schmitt a appelé l'idéologie de la cité œcuménique. L'ambition de domination mondiale est inscrite dans la structure même de l'Empire, dans la mesure où, par définition, d'autres peuples rejettent ce projet universaliste ou ont eux-mêmes leur propre projet. C'est cette structure impérialiste qui nous donne la clé de l'explication de la spécificité du droit des genres antique et médiéval, dont les siens. Si le droit est personnel, c'est parce que l'Empire ne pense pas ses limites. Il ne peut pas les penser parce que ça serait la négation de sa raison d'être, du fondement même de sa légitimité. Le principe de personnalité du droit est donc le seul lien de rattachement juridique concevable par un pouvoir qui ignore les concepts juridiques de territoire et de frontières. Ce sont les Romains qui ont inventé le concept d'empire, même si la réalité, évidemment, de l'empire leur est antérieure. Intéressant à cet égard, l'analyse de l'évolution à Rome du concept d'empire. Au départ, quand on disait d'un général romain qu'il était « cum imperio », cela signifiait à l'origine donc qu'il avait été investi par le Sénat et l'Assemblée du peuple de la responsabilité militaire suprême. Mais ce mot, le sens de ce mot va évoluer plus tard. Quand la République devint un empire, les mots cum imperio en vinrent à signifier que le peuple romain, dans son ensemble, assumait collectivement la responsabilité de gouverner les autres peuples. Pour Saint Thomas d'Aquin, la Respublica sub Deo est aussi une cité mondiale, administrée par le président suprême du pouvoir spirituel, le vicaire de Dieu sur terre, le pape. Le pouvoir des papes s'étend même aux infidèles, car ils appartiennent aussi à la République sous Dieu. Ce qui est vrai pour la Respublica Christiana l'est aussi pour le califat musulman, qui est au service de l'autre religion universaliste qu'est l'islam. Tout espace non soumis à l'islam est une terre de guerre, Dar al-Harb. Et la fin, dans les deux sens du mot fin, la terminaison et le but de la guerre correspond donc dans cette logique à l'universalisation de l'islam, ou plus précisément à l'universalisation du pouvoir musulman, et cela est la mission du calife. Le contenu normatif des siyar en particulier et du droit des gens antiques et médiéval en général correspond aux besoins historiques d'une forme politique, l'empire. Les siyar ne sont donc nullement une exception islamique. Les siyar sont une lecture de la normativité islamique dans le contexte et dans l'intérêt d'un pouvoir impérial. Mais les siyar sont en même temps le produit d'une lecture orthodoxe de l'islam, qui a sacralisé l'ensemble du fiqh, l'ensemble, y compris donc sa branche constituée par les siyar. C'est ce qui explique que les siyar ont survécu à l'Empire. Ce corpus iuris s'est maintenu alors que l'Empire, lui, a depuis longtemps disparu. C'est cette orthodoxie qu'il nous faut donc à présent et rapidement, malheureusement, exposer. L'orthodoxie musulmane est la survivance des siyar. Sur la question du statut de la révélation, l'orthodoxie sunnite je parle de ce que je connais, mais ce n'est pas très loin de l'orthodoxie chiite, sur ce point en particulier, s'est constitué au Xe siècle après Jésus-Christ. Si la révélation est divine, l'orthodoxie, elle, est par définition un fait humain. Elle se situe dans l'histoire et peut être définie comme la lecture dominante d'un dogme donné. Si l'orthodoxie tient sur elle-même le discours de la vérité, je suis la vraie interprétation du vrai islam, si elle tient ce type de discours, cela ne peut être considéré que comme l'expression idéologique de la victoire historique d'une lecture donnée. Cela ne veut pas dire que l'orthodoxie est une lecture fausse, non vraie. Il y a contradiction dans les termes à dire lecture vraie ou lecture fausse. Un texte n'est pas susceptible d'une lecture vraie, ou, ce qui revient même, il y a toujours plusieurs lectures d'un texte. La norme de l'évaluation d'une lecture n'est pas la vérité, mais l'utilité. Et cela, c'est une autre question. La pensée musulmane sunnite, dans son rapport à la révélation, s'est très vite scindée en deux tendances. Dès le 1er siècle, on pouvait distinguer une tendance rationaliste d'une tendance volontariste, que je vais résumer en quelques minutes, dans les quelques minutes qui me restent, par un schéma qui serait une sorte de triangle. Au sommet de ce triangle, l'être humain, je veux dire. C'est pour ça que j'ai mis d'humain majuscule homme. Et puis, troisième angle, la nature. Tout va se jouer sur un postulat. Comment conçoit-on Dieu ? Si Dieu est conçu comme une raison parfaite, qui ne veut que le bien de ses créatures, qui est juste, les musulmans considèrent qu'il est le juste en soi, qui n'est pas juste comme une qualité, c'est sa substance même, son essence même que la justice, adl. Si on conçoit Dieu comme une raison parfaite, si on pose que Dieu est juste, alors on ne peut pas lui imputer une injustice. Et pour ne pas lui imputer une injustice, comment sait que l'homme sera un jour redevable, comptable de ce qu'il a fait durant sa vie terrestre? Eh bien, on doit considérer que l'homme est libre, qu'il y a un libre arbitre, qu'il crée ses actes. C'est pour ça qu'il en est responsable au jour du jugement dernier. S'il est libre et responsable, n'est-ce pas ? S'il crée ses actes lui-même, cela signifie qu'il va faire agir sa raison, qui va lui permettre de distinguer entre ce qui est bien, ce qui est beau, disent les philosophes musulmans, et ce qui est laid. Mais cet homme qui est libre, qui est responsable, il va, pour savoir ce qui est beau, de distinguer de ce qui est laid, interroger la nature. Il va observer la nature et dire: il est de la nature du meurtre qu'il est laid, il est de la nature du vol qu'il est laid, et c'est pour ça qu'on ne doit pas voler ou qu'on ne doit pas tuer. C'est la nature des choses. Et cette faculté d'interroger la nature pour savoir ce qui est beau, de ce qui est distingué de ce qui est laid, c'est ce qui fait qu'il va choisir, décider, et en fonction de sa décision, il sera responsable. Mais cela suppose que la nature existe, qu'il y a une nature des choses, que Dieu a créé la nature selon une loi parfaite, aussi parfaite que son créateur, C'est cette loi que saint Thomas nommera la loi éternelle, l'ex aeterna. Et cette loi qui est parfaite, elle est parfaite jusqu'au point que Dieu lui-même ne peut rien y changer. Parce que changer le parfait, ça veut dire passer à l'imparfait. Et Dieu ne peut pas. En Dieu, donc, la raison prime la volonté. Cette trilogie, Dieu, juste, homme, libre, loi naturelle, est celle qui a été défendue par l'islam rationaliste des premiers siècles, qui s'appelle, et ses défenseurs, ce sont ce qu'on appelle les Mu'tazilites. Les Mu'tazilites, j'aurai 2 minutes, est-ce que c'est possible? 2-3 minutes. Les Mu'tazilites ont été la figure dominante de l'intellectuel, c'est un mot qui ne correspond pas, durant les 3 premiers siècles de l'islam, et notamment les 2 premiers siècles. Ils ont défendu leur thèse, mais le malheur, en quelque sorte, est que au début du 9e siècle de l'ère chrétienne, 3e siècle de l'ère musulmane, ils sont arrivés au pouvoir. Ils ont pris le pouvoir. 3 califes se sont succédés qui étaient partisans de ces thèses-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont pris le pouvoir, ils ont transformé leur théorie en autant d'articles de foi. Et il y a eu une véritable inquisition, mehna, on la nomme en arabe. On appelait les fouqahas, on leur dit, est-ce que vous pensez que Dieu est le juste en soi? Est-ce que vous pensez que l'homme est libre? Alors si le jurisconsulte disait non, eh bien il était emprisonné. C'est ce qui est arrivé à Ibn Hanbal, qui est un des grands fondateurs d'écoles de droit musulman. Donc cette raison, une fois au pouvoir, s'est transformée en terreur. Et la réaction va avoir lieu à la fin du califat de Mu'tazilite, et cette vision de Dieu va être remplacée par une autre totalement différente, celle qui aujourd'hui constitue l'orthodoxie, jusqu'à aujourd'hui. Dans cette vision, Dieu est une volonté absolue. Dieu est une puissance infinie. C'est cette vision que j'appelle vision volontariste. Évidemment, ceux qui défendent cette vision pensent que Dieu a une raison. Mais ce qu'ils affirment, c'est que cette raison n'est pas à la portée de l'homme. L'homme ne peut pas connaître ça, la raison divine, ça le dépasse. Qu'est-ce qu'il peut connaître de Dieu? Eh bien, il ne peut connaître de Dieu que ce que Dieu a voulu qu'il connaisse. Et comment est-ce qu'il a voulu cela? Eh bien, par la révélation. D'où la centralité dans cette thèse du Coran, de la Sunna, de ce qu'on appelle le texte. Parce que c'est ce texte qui contient la volonté divine. Et je ne peux savoir que ce que Dieu veut que en lisant le texte du Coran et de la Sunna. Ce texte du Coran et de la Sunna va être expliqué par qui? Eh bien, par le fiqh. C'est pour ça que je vous ai dit que le fiqh n'est pas du droit. C'est beaucoup plus que du droit. C'est la lecture, la connaissance de la volonté divine. Y compris en matière juridique, mais pas seulement. En tout domaine. Centralité du fiqh. Si Dieu est une volonté, une puissance infinie, le fiqh, donc le texte de la sunna, le texte du comprend, tel qu'il a été interprété à cette période-là, dont je parlais, la période de l'Empire, va être sacralisé, sanctifié. Et dans cette perspective, cet homme ne peut pas être libre. Parce que s'il était libre, sa liberté serait une limite à quoi? Une limite à la puissance divine. S'il crée ses actes, ça veut dire que Dieu ne le crée pas. Mais si Dieu ne le crée pas, ça veut dire que la puissance divine est limitée, ce qui est inconcevable. Et donc, on va dire que l'homme est prédestiné. Il est responsable et prédestiné. Ben oui, il est responsable et prédestiné. C'est Dieu qui le veut ainsi. Et on ne discute pas les jugements divins. La nature, elle, ne peut pas être gouvernée par une loi. Parce que si elle était gouvernée par une loi, Dieu ne pourrait pas la changer, mais cela limiterait sa puissance. Résultat, la nature, c'est la création de tout instant, une création permanente. Et il n'y a pas de causalité. À tout moment, en tout instant, tout ce qui advient est la conséquence d'une volonté divine et non pas d'une loi naturelle que Dieu ne pourrait pas changer parce que cela serait méconnaître la finie puissance de Dieu. C'est cette vision qui, si vous prenez un jour en avion, une compagnie tunisaire, tunisienne par exemple, un peu avant l'atterrissage, vous allez entendre le pilote dire « Nous atterrirons bientôt, Inch'Allah, si Dieu le veut. » Ben, ça veut pas dire que le pilote n'est pas sûr de ses compétences. Non, c'est là l'effet de cette vision. Parce que c'est Dieu qui voudra que l'avion atterrisse. Et non pas le pilote. Négation de la causalité. Il n'y a pas de loi de la nature. La nature est création permanente. L'homme est prédestiné. Et toute connaissance que peut avoir l'homme, il l'a du fiqh. Parce que c'est la connaissance de la révélation, la source de l'unique vérité. Et les siyar dont on parlait sont une partie de ce fiqh, constituée durant cette période. À partir de là, on s'explique que les siyar ont survécu à l'Empire, qui pourtant a déterminé leur contenu. Et si aujourd'hui, un imam de mosquée, dans son prêche du vendredi, traite de questions des siyar, eh bien, il va répéter ce qu'ont dit les anciens de cette période-là. Parce que pour lui, ce n'est pas du droit international qu'il est en train d'expliquer, c'est la volonté divine. Ce droit impérial, qui a une cause historique, en fait, cette lecture orthodoxe a fait qu'il devient un historique, qu'il survit à l'Empire. On oppose toujours l'islam officiel à l'islam des terroristes, des djihadistes. Mais en vérité, sur le fond, il n'y a pas de différence. Parce que l'islam qu'on enseigne dans les écoles, l'islam officiel de l'État, eh bien, c'est le même que celui du djihadiste. Quelle différence entre eux ? Ce n'est pas le contenu du texte, c'est le même. Ce n'est pas l'interprétation, c'est la même. C'est une décision politique. Est-ce que je la mets en œuvre ou pas ? L'État, les États musulmans, entendent dominer la religion et la réduire à une instance de légitimation. Uniquement. Alors que les djihadistes, eux, entendent appliquer cette religion et soumettre les États à cette loi. C'est ça la différence. Ce n'est pas une différence relative au fond, au contenu. C'est une différence relative au point de vue, à la politique. Voilà, je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.